Amis, frères et sœurs en Christ, vous ne savez peut-être pas ce qu'est la mission réelle d'un serviteur de Jésus-Christ. Voici, par cet enseignement, la mission de celui qui est vraiment appelé par le Seigneur. Souvent, on se retrouve devant les imposteurs, les arnaqueurs, les voleurs, les marabouts déguisés en serviteurs de Jésus, des magiciens. Par cet enseignement, vous saurez distinguer les vrais du faux. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Vous êtes invité à écouter le plus attentivement possible tout en vous servant des Écritures saintes. Que Dieu vous éclaire. Donc, commençons cet enseignement, la mission d'un serviteur de Jésus-Christ. La mission ou le rôle des appelés, donc serviteurs de Jésus-Christ. Le serviteur de Jésus-Christ, le disciple de Jésus-Christ, l'apôtre de Jésus-Christ, est au service des enfants de Dieu. Sa mission consiste à accomplir rien que les recommandations, les tâches ordonnées par son maître, c'est-à-dire celui qui l'a appelé et établi. Le serviteur n'est pas supérieur à son maître. Cela veut dire qu'il doit scrupuleusement se conformer à ce que le maître lui recommande. Jean 13, 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. La mission des serviteurs appelés est claire. Il n'y a pas d'ambiguïté. Marc 16, de 15 à 16. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Annoncez la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Annoncez en expliquant pourquoi la venue du Christ sur la terre. Et dire aussi pourquoi le Christ s'est revêti d'un corps humain à sa mesure. Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Parmi les auditeurs, ceux qui ont cru et accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui ont pris l'engagement de porter son nom, le serviteur, le disciple de Jésus-Christ, procède à la cérémonie de baptême. Suivant, bien sûr, le modèle donné par le Seigneur, c'est-à-dire le baptême par immersion dans les eaux qui coulent. Cet auditeur est né de nouveau. Il est le nouveau-né dans le Seigneur. Mais après la naissance, le serviteur a un travail pour l'éducation de ce nouveau-né. Et cela, selon ce qu'il a été prescrit par le Maître. Matthieu 28, 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le serviteur doit l'enseigner, ce nouveau-né, l'enseigner à cultiver et surtout à garder la personnalité de Jésus-Christ. Car ce nouveau-né doit porter en lui cette personnalité qui fera de lui réellement fils de Dieu. Car sans le port de cette personne de Jésus-Christ, on ne peut pas voir Dieu, ni recevoir la bénédiction, les faveurs et les bienfaits de Dieu. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Celui qui porte cette personne de Jésus-Christ en lui reçoit aussi l'Esprit de Dieu qui fait rentrer le croyant chrétien dans la filiation de la race de Dieu. Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Pour donner plus de précision sur la mission du serviteur vis-à-vis de l'enfant de Dieu par Jésus-Christ, voyons ces passages de cette parabole donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Prenons Luc 15, de 20 à 24. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. » Par ces passages, le Seigneur Jésus-Christ définit très clairement le travail de ses serviteurs. Un enfant rebelle qui vit hors la maison de grâce de son père reconnaît avoir commis un péché contre son père. L'enfant décide de lui-même d'entrer à la maison. Il vient trouver son père et demande pardon, non devant le serviteur, mais devant son père. Son père est vivant. Ce n'est pas vers un serviteur qu'il ira demander pardon. Il a péché contre son père. Il a rompu son alliance avec son père. Il a désobéi à la loi de son père. Il n'a pas à rendre compte au serviteur. C'est à son père qu'il doit rendre compte. Deutéronome 18, 18 et 19. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Le Père lui pardonne. Et il faut se rappeler que le Père est vivant. Il n'est pas mort. Il est très important de savoir que le serviteur n'est pas le représentant. Luc 24, 5. Saisi de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Acte 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Apocalypse 1, 18. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Le roi est vivant. Chaque enfant rebelle doit se présenter uniquement devant le roi pour se repentir et non devant les mortels. Après la repentance, c'est là qu'intervient le travail du serviteur. Luc 15, de 22 à 24. Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Qu'est-ce que cela veut dire? Revêtez-le de la plus belle robe. La plus belle robe, c'est la parole de Dieu. Le serviteur doit donner la parole, l'enseigner, le corriger, le convaincre et l'instruire. 2 Timothée 3, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Oui, le revêtir de l'esprit de vérité et de la justice qui est la parole de la vie. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Qu'est-ce que mettre un anneau au doigt? Par sa désobéissance, sa rébellion, cet enfant a rompu son alliance avec son père. Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Cette alliance qui fait que le père bénit l'enfant adoptif et devient son bouclier pour le protéger. Le serviteur doit rappeler ces choses pour que l'enfant adoptif puisse toujours demeurer dans la maison de grâce de son père. C'est cela la Sainte Cène, c'est le renouvellement de l'alliance. Demeurez toujours l'épouse du Christ, car tout croyant chrétien est l'épouse du Christ. 1 Corinthiens 11, versets de 23 à 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Qu'est-ce que mettre les souliers aux pieds? Voyons tout d'abord Genèse 17, 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Exode 14, 15. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi s'écrie, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent ?» Le serviteur doit faire connaître à l'enfant de Dieu qui est le Saint-Esprit, sa mission pour nous, croyants chrétiens. Il faut que l'enfant de Dieu se laisse guider ou conduire par l'Esprit de son Père. Zacharie 4, 6. Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Jean 16, de 13 à 15. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Toutes ces choses résument une seule recommandation de Jésus-Christ à ses serviteurs. Cela veut dire prendre soin. Jean 21:15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Le Seigneur a répété cela 3 fois. C'est pour dire que cette recommandation est très capitale pour le serviteur. Reprenons Jean 21, verset 15 jusqu'au verset 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit pour une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Que remarquons-nous aujourd'hui encore ? Le serviteur est devenu le maître. L'enfant de Dieu est devenu esclave du serviteur. Le serviteur est devenu pharaon. Et le croyant chrétien, lui, l'enfant d'Israël, esclave de Pharaon. Et pourtant, c'est le serviteur qui doit servir l'enfant, non pas le contraire. Et vous le savez bien, car vous le voyez et le vivez. Ce n'est pas l'enfant qui doit servir le serviteur de son père pour qu'il reste au chaud. Ce n'est pas à l'enfant non plus de trimer pour venir nourrir le serviteur de son père. Le monde de Dieu est l'envers. Nous sommes vraiment en Égypte de Pharaon. Où est la nouvelle alliance ? Où elle est ? Mais comme les croyants chrétiens sont ignorants, ils se laissent malmener par les soi-disant serviteurs, ceux qui prêchent l'évangile de peur, car ils font peur aux enfants de Dieu, par des propos mensongers. Ils vous disent en brandissant l'arme fatale, « Si vous ne payez pas des offrandes, si vous ne payez pas des dîmes, Dieu ne vous bénit pas, la malédiction tombe sur vous. Il faut payer pour que vous soyez délivrés de la malédiction des parents. Ces serviteurs sont devenus des marabouts. Ils vont chercher de la magie pour faire des miracles, pour impressionner les enfants de Dieu. Et comme ces croyants chrétiens ne sont pas vraiment enseignés, ils ne sont pas bien assis dans la vérité par manque d'enseignants véritablement appelés par le Seigneur lui-même, eh bien, ils tombent comme des petites mouches sans résistance devant ces illusionnistes qui se font passer comme venant de Dieu. Ne vous y trompez pas, c'est dans toutes les dénominations chrétiennes confondues. Enfants de Dieu, frères et sœurs en Christ, vous êtes invités à ouvrir vos yeux et vos oreilles. Éphésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Éphésiens 5, de 10 à 11. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infectueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. La mission d'un serviteur, disons un vrai serviteur appelé par le Seigneur, est d'enseigner la loi royale et ses ordonnances. Matthieu 22, 36 à 39. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jean 15, 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. 1 Jean 4, 20 et 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Jean 8, 11. Elle répondit « Non, Seigneur ». Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus ». Dire à l'enfant de Dieu de ne pas rompre son alliance avec son père, de ne pas sortir de la maison de grâce de son père, c'est-à-dire ne pas pécher, car Dieu n'aime pas celui qui vit dans le péché. Il ne peut pas, absolument pas exaucer les demandes des pécheurs. Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Ésaïe 59, 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Jésus n'a jamais ordonné ni exigé à son serviteur, appelé, d'imposer ou réclamer de l'argent, non plus quelque chose de matériel à un des enfants de Dieu. Toi, serviteur, va travailler pour te prendre en charge. N'as-tu pas déjà prêché sur Paul ? Paul, le serviteur de Jésus-Christ, est le serviteur modèle que l'on doit suivre. 1 Corinthiens 11, 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. 2 Thessaloniciens 3, versets de 7 à 15. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons, cependant, qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ, à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Actes 18, de 1 à 3. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Acte 20, de 33 à 35. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Voilà, frères et sœurs, surtout les serviteurs de Jésus-Christ qui vacillent à cet enseignement, soyez-en sûrs, il vous éclairera et vous permettra à vous ressaisir et servir votre maître et seigneur selon sa volonté. Et ainsi vous recevrez votre salaire. Car un ouvrier fidèle mérite son salaire. C'est le père qui vous paie et non l'enfant. Voilà, que cela soit clair concernant la mission du serviteur de Jésus-Christ, les serviteurs appelés. Amen. Gloire à Dieu.